Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Bounagana occupé par l'armée rwandaise depuis hier lundi, le FRDC accuse. Entre-temps, le président de la commission de l'Union africaine dit suivre avec préoccupation la détérioration de la situation sécuritaire entre le Rwanda et la RDC. Moussa Faki Mahamat encourage vivement les deux pays frères à résoudre tout différend par le dialogue et la concertation fraternelle. Et puis la proposition de la loi électorale du G13, votée hier au Sénat en des termes différents de l'Assemblée nationale. Une commission mixte paritaire de deux chambres du Parlement sera mise en place dès ce mardi pour harmoniser les vues. Enfin, quelles sont les conclusions et les recommandations issues des recherches appuyées par l'unité stabilisation de la MONUSCO sur les conflits liés à la délimitation du parc national de Virunga dans le territoire de Beni au Nord Kivu? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Serge Voutea, coordonnateur du programme Gouvernance et Ressources naturelles de l'Institut de recherche intégrée de l'IBC. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le FRDC accuse l'armée rwandaise d'occuper la cité de Bounagana en RDC depuis la matinée de ce lundi 13 juin et promettent d'en tirer toutes les conséquences. Cette déclaration est contenue dans un communiqué publié hier lundi. Le FRDC appelle la population locale au calme et à ne pas céder à la panique. Entre-temps, le président de la Commission de l'Union africaine dit suivre avec préoccupation la détérioration de la situation sécuritaire entre le Rwanda et la RDC. Dans un communiqué, Moussa Faki Mahamat appelle à une cessation immédiate de toute forme de violence pour tout groupe armé et de toute activité militaire présentant une quelconque menace pour le Rwanda et pour la RDC. Il encourage vivement les deux pays frères à résoudre tout différend par le dialogue et la concertation fraternelle offerts par les mécanismes régionaux, notamment ceux entrepris par João Lourenço, président de la République d'Angola et président de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGEL, ainsi que le processus de Nairobi. Contrôle par le M23 de la cité frontalière de Bounagana au Nord Kivu, Jean-Claude Mbabazi, président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu, confirme cette situation. Il affirme aussi que les FRDC n'ont pas démérité puisqu'ils se sont retirés, selon lui, de Bounagana pour éviter les dommages collatéraux dans la population. On l'écoute.
Alors, les FRDC en professionnel n'ont pas voulu qu'il y ait des dégâts collatéraux dans la cité de Bounagana. Les bombes commençaient déjà à tomber non loin de Bounagana. Alors, les FRDC en professionnel et qui ont des soucis de la population n'ont pas voulu s'affronter avec ces rebelles dans la cité de Bounagana. Et ils ont préféré
c'est le terrain libre.
Allemand sans combattre pour éviter qu'il y ait des dégâts sur la population. En arrivant d'abord à Bounagana, tout le monde avait fui. C'était vraiment une cité déserte parce que la population a fui. Il n'y a personne là-bas. Les FRDC ne sont pas loin de Bounagana. Je peux confirmer que les FRDC sont dans les villages voisins de Bounagana. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que s'attendent également au fait des FRDC. Nous sommes déjà informés qu'en arrivant, ils ont passé des cadenas de certains bureaux, ils sont entrés dans certains bureaux, mais ils ne se sont pas installés parce qu'il n'y a pas de civils là-bas. Et ceux qui sont là sont des militaires. Et donc, ils attendent que la branche politique arrive, on ne sait pas encore. Chose malheureuse encore une fois, c'est que dans cette soirée ici, ils se sont livrés aux actes de pillage, des boutiques qui viennent d'être pillées sérieusement, et même dans des résidences.
Pour Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, il faut renforcer l'armée en la dotant des moyens adéquats. Cela, dit-il, lui permettra de bien protéger la population.
Il y a aussi la guerre qu'on vit au jour le jour en termes de dégâts. Lorsqu'on voit la souffrance de notre population, de ses enfants qui perdent, de ses femmes avec des matelas, mais ce sont des scènes qu'on ne peut pas accepter. Il y a aujourd'hui plus de 500 000 personnes qui sont en train d'errer. Et je crois que ça, nous devons, notre armée a été cannibalisée et nous devons remonter en puissance. 3,9% des ressources, c'est insuffisant. Ça fait moins de 600 millions de dollars pour, n'est-ce pas, remonter l'armée qui a été pendant 18 ans totalement cannibalisée. Pour nous, nous devons protéger nos frontières, nous devons protéger notre population, nous devons lui donner la paix. Et pour cela, il faut une armée capable de s'assumer. Et pour cela, il faut des moyens.
Par ailleurs, selon Jean-Jacques Wondo, analyste politique et spécialiste des questions militaires, ce qui se passe à Bounagana montre qu'il y aurait une coalition pour occuper une partie du Nord Kivu. Il ajoute que ce que le M23 n'a pas pu obtenir par les négociations, il veut l'obtenir par les moyens militaires avec l'appui des pays frontaliers. On l'écoute.
L'explication est simple. C'est-à-dire que ce que le M23 n'a pas pu obtenir au niveau des négociations à Nairobi, il essaye d'utiliser la force pour pouvoir mettre les autorités congolaises devant le fait accompli. Et c'est la tactique qu'on appelle « fight and talk ». Ils discutent quand ça les arrange et quand ils estiment que les négociations ne leur permettent pas d'obtenir gain de cause, là, ils utilisent les moyens militaires, notamment avec l'appui des pays frontaliers. Parce qu'une rébellion ne peut pas prospérer sans pouvoir bénéficier des soutiens des États frontaliers. Mais je pense que le M23 n'est là que comme des acteurs de proxy pour représenter les revendications des pays frontaliers, notamment le Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda a toujours voulu avoir une influence sur la politique, sur la sécurité du Congo.
Les trois intervenants que vous venez de suivre étaient les invités du magazine Dialogue entre Congolais d'hier soir, animé par Donna Madimba, et les extraits ont été proposés par Alain Irung. Vous pouvez réécouter cette émission en allant sur radiocapi.net. Et puis, l'objectif des troupes ougandaises venues appuyer l'armée congolaise, voici maintenant plus de 6 mois, est-il de combattre les ADF ou de sécuriser les intérêts économiques? C'est la question fondamentale à laquelle tente de répondre une enquête menée conjointement par le groupe d'études sur le Congo GIEC en sigle et Ebouteli, un institut congolais de recherche partenaire du GIEC. Les conclusions de cette enquête seront rendues publiques ce mardi 14 juin. Honoré Missenga Kalala.
L'interrogation se base sur la résurgence du M23 dont les attaques actuelles, lancées en novembre 2021 et qui se sont intensifiées depuis le mois de mai dernier, se passent juste à l'ouest des frontières ougandaises et rwandaises. L'étude de ces deux structures se concentre sur le déploiement des forces de défense populaire de l'Ouganda pour mener des opérations aux côtés de l'armée congolaise dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour les autorités ougandaises, relève cette étude, l'objectif était de démanteler les forces démocratiques alliées, ADF, un groupe armé islamiste reclus et extrêmement brutal. Était-ce la seule raison? Dans leur rapport, GIEC et Ebouteli cherchent à comprendre les autres facettes de la motivation du gouvernement ougandais d'envoyer ses troupes aux côtés des FRDC dans les deux provinces sous état de siège. Notamment que l'engagement des UPDF visait vraisemblablement aussi à protéger les gisements de pétrole et les infrastructures de l'Ouganda autour du lac Albert et à construire des routes pour développer un marché pour les exportations ougandaises.
Autre nouvelle, le Sénat a voté hier lundi la proposition de loi électorale du G13 en des termes différents de l'Assemblée nationale. Une commission mixte paritaire des deux chambres du Parlement sera mise en place dès ce mardi pour harmoniser les vues. Les innovations apportées par le Sénat touchent plus généralement à la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin, à la représentativité de la femme et à la certification des résultats. Elles participent à l'amélioration du système électoral. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Voter en des termes différents de ceux de l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat sera mise sur pied.
La version de la loi électorale votée par le Sénat apporte 9 innovations. Elle retient la proposition du G13 d'introduire le seuil de recevabilité des listes au prorata de 20% des sièges en compétition au lieu de 60% retenus par l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée nationale, elle prend aussi en compte la dimension genre et retient la distinction des inéligibilités définitives pour des crimes graves et celles temporaires pour les autres infractions. La loi ainsi votée approuve aussi la définition du régime légal exhaustif pour le vote électronique et les semi-électroniques. À l'instar de l'Assemblée nationale, elle oblige à la CENI d'afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote et de publier tous ces résultats sur le site internet de la CENI. Toujours selon cette loi, la CENI doit assurer la transmission des plis destinés aux cours et tribunaux qui ont l'obligation de s'en servir lors du traitement des contentieux. La version du Sénat oblige enfin la CENI de publier la cartographie électorale 30 jours avant le début de la campagne au lieu de la veille telle que proposée par la Chambre sœur.
Et puis justice dans cette édition du journal. Le dossier Augustin Matata Ponyo réapparaît à la Cour de cassation. Celle-ci a ouvert une audience publique ce lundi à laquelle ont comparu physiquement les co-accusés de Matata, dont Patrice Kitebi, ancien directeur général du FPI, et le Sud-Africain Grobler Christo, gérant de la société Africom. Le sénateur absent et n'ayant pas été atteint par l'exploit du ministère public, la Cour a décidé de renvoyer la cause au 11 juillet prochain. L'ancien Premier ministre est à nouveau poursuivi par le parquet général près la Cour de cassation pour avoir dissimulé, selon le parquet, plus de 200 millions de dollars américains dans la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, une affaire dont la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente en décembre dernier. Laurent Onyemba, un des avocats de Matata, affirme que son client n'est pas en fuite et qu'il est prêt à le défendre. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Nous sommes là pour justement défendre les intérêts de M. Matata, mais que vous savez qu'en matière pénale, pour certaines préventions, eh bien, la présence physique est exigée. Et ça, c'est la loi. Mais avant justement d'aborder la question de la présence physique, il y a un préalable. C'est que M. Matata doit être atteint. Ça veut dire qu'il faut que l'espoir ait été déposé régulièrement chez lui à la maison. Mais nous attendons justement que M. Matata soit d'abord régulièrement saisi et nous allons en venir justement quant au préalable parce qu'il n'entend pas se soustraire. Il sait qu'il se rapproche de rien du fait de cette gestion, mais que nous sommes scandalisés de voir que les dossiers étaient au niveau du parquet général pour la Cour constitutionnelle. Il a été, donc le parquet a été saisi en envoyant le dossier à la Cour constitutionnelle. La Cour s'est prononcée. Le dossier donc est devenu un dossier du greffe. Quel n'a pas été notre étonnement de voir que le dossier réapparaît à la Cour de cassation sans que M. Matata ait été entendu au niveau du parquet général pour la Cour de cassation. Et donc, nous ne comprenons rien sur la nature, justement, de cette procédure.
Kwilu, manifestation de colère ce lundi 13 juin des enseignants du territoire de Gungu dans la province éducationnelle Kwilu 3. Ils exigent le paiement de leur salaire de 2 mois par la banque chargée de leur paye, l'Ecobank. Dans leur mémo lu devant l'administrateur du territoire, ils disent être payés à chaque fois après 65 jours et avec beaucoup de difficultés. Entre-temps, aucune école n'a fonctionné ce lundi dans cette partie du pays, signale les sources sur place. Plus de précisions dans ce reportage de Irène Bouma.
C'est dans cette ambiance que ces enseignants, en colère, ont pris d'assaut les artères principales de la cité de Gungu pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de l'Ecobank, banque chargée de leur paye. Dans un mémorandum lu à l'issue de cette marche, ils ont dénoncé certaines irrégularités de la part de cette banque, notamment les retards récurrents de paiement de leur salaire.
La paye des enseignants de Gungu, 1 mois égale 60 à 65 jours. Pendant que les autres coins du pays attendent la paye du mois de juin, ceux de Gungu attendent le mois d'avril. Que l'Ecobank centrale ajoute une équipe à la première pour éviter les retards. Que l'Ecobank applique le système de listing manuel, soit interconnexion pour éviter les doublons et autres confusions.
Toutes les activités scolaires ont été paralysées ce lundi dans la cité de Gungu à la suite de cette marche des enseignants qui est partie du marché central de Gungu pour chuter au bureau de l'administrateur du territoire. Nos efforts pour joindre l'Ecobank à Kikwit sont restés vains. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme sous le thème « Unis pour faire entendre notre voix ». C'était hier 13 juin. Nzambandaka, l'événement a été célébré ce 13 juin dans le contexte particulier de l'épidémie de la maladie à virus Ebola sous le thème provincial « Luttons contre la discrimination faite aux albinos et la maladie à virus Ebola ». À cet effet, le gouvernement provincial a invité les responsables à mener des actions à impact social visible en vue de protéger les compatriotes vivant avec albinisme. C'était à l'initiative du regroupement des humanitaires pour la protection des albinos et de l'environnement, une ONG locale qui encadre environ 200 albinos répertoriés dans la ville. Reportage Paul Richard Malengela.
En Bandaka, tous les orateurs ont été unanimes. Il faut des efforts supplémentaires de sensibilisation à l'albinisme, car la plupart des albinos dans la ville affirment être souvent l'objet de mépris, comme l'a témoigné Cathy Mombolou, élève finaliste des humanités.
Personnellement, je peux dire que je vis avec des critiques, avec aussi un peu des insultes et aussi des moqueries. C'est pas facile de vivre avec d'autres personnes. Il y a d'autres que leurs parents leur ont abandonné.
Outre la discrimination, les albinos de l'Équateur doivent aussi relever le défi fondamental de leur entretien corporel, a expliqué Bibish Lobayempoutou, coordonnatrice de l'ONG Regroupement des humanitaires pour la protection des albinos et de l'environnement.
Ici à l'Équateur, l'ennemi numéro 1 des albinos, c'est le soleil, le rayon ultraviolet. Cela provoque le fissure et ça provoque aussi les cancers des peaux. Ici à l'Équateur, on n'a pas de dermatologues et on n'a pas de produits pharmaceutiques, des crèmes solaires, on n'a pas de lotions.
Enfin, le ministre provincial intérimaire du genre, famille et enfants, qui a présidé la cérémonie, a rassuré que l'albinisme n'est pas une fatalité. Papi Ekate a rappelé la nécessité de mener des actions à impact social visible en vue de protéger les albinos ainsi que l'élimination de la violence basée sur le genre à l'Équateur. Bandaka Paul Chumalingué, la radio Okapi.
Actualité internationale.
L'ex-président du Sénat de Madagascar, Ivo Rakotovao, a été convoqué ce lundi par le Bureau indépendant de lutte anticorruption Bianco pour une suspicion de corruption, de détournement de fonds publics et d'abus de fonction. Des faits qui remontent à 2019, lorsqu'il était à la tête de la Chambre haute. L'actuel président du parti HVM, le parti de l'ex-président, a été auditionné pendant plus de 3 heures. C'est la première fois qu'un chef d'institution fait l'objet d'une enquête.
L'invité.
L'Institut de recherche intégrée de l'Université chrétienne bilingue au Congo vient d'effectuer une recherche sur les conflits liés à la délimitation du parc national de Virunga dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Quelles sont les conclusions et les recommandations issues de ces recherches appuyées par l'unité stabilisation de la MONUSCO? Pour en parler, nous recevons dans cette édition comme invité le coordonnateur du programme gouvernance et ressources naturelles de l'Institut de recherche intégrée de l'UBC, Serge Voutea, s'entretient avec Martial Papi-Moukeba. Suivez.
Serge Voutea, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rapport final des recherches sur les différentes interprétations autour des limites du parc national de Virunga dans la région de Beni?
Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un rapport qui cherche à donner clarification sur ces différends qui a longtemps duré, mais aussi sur différentes compréhensions, différents points de vue de protagonistes, donner une piste de solution en termes de recommandations programmatiques pour avancer vers une solution durable. Cette étude a été réalisée avec l'appui de l'unité de la stabilisation de la MONUSCO et l'étude a été réalisée et exécutée par l'Institut de recherche intégrée de l'Université chrétienne bilingue du Congo. En termes méthodologiques, on a utilisé des interviews semi-directionnelles pour nous permettre au fait de contacter différentes catégories d'informateurs clés sur cette question de conflit qui ont été identifiés dans un processus participatif et inclusif. Ces informateurs, en fait, nous ont permis d'identifier différentes sources d'informations, mais aussi différentes sources de données relatives à toutes les initiatives du passé tentant à résoudre ces conflits. Et c'est sur base de ces informations que nous avons essayé de trianguler et de tirer des conclusions.
Dans les résultats de vos recherches, vous dites que la plupart des textes qui définissent les limites du parc national de Virunga datent des années 1935 à 1950, donc à l'époque coloniale. Pensez-vous que c'est l'une des raisons des conflits autour des limites du parc national de Virunga?
Oui, en fait, il y a différentes interprétations de ces textes de loi. Bien que datant de l'époque coloniale, comme vous le savez, certaines parties au conflit jugent ces textes d'injustes, mais aussi établis dans l'anarchie. Cependant, sur le plan des droits, même si le texte est vieillissant, s'il n'est pas encore abrogé, reste toujours d'application. Il y a le décret royal de 1935 portant délimitation du parc national de Virunga. C'est le premier texte, en fait, qui décrit clairement les différentes limites avec des repères du parc national de Virunga. Et ce texte a été modifié et complété par l'arrêté de 1950.
Dans vos recherches, est-ce que vous avez contacté l'ICCN?
Oui, en effet. Cette recherche, on ne pourrait pas arriver à ce stade ici si on ne pouvait pas avoir le point de vue des différentes parties en question. Donc, dans la cartographie des acteurs, nous avons identifié l'ICCN comme étant une des grandes parties prenantes à ces conflits. Et donc, nous avons eu le temps d'échanger, de poser des questions à cette institution, l'ICCN. Et donc, voilà, l'ICCN a été partie prenante à l'étude.
Quelles sont vos recommandations pour stabiliser la zone de Beni et contribuer à atténuer les tensions liées au conflit d'interprétation autour des limites du parc national de Virunga?
Le TIDA a recommandé environ 7 grandes recommandations qui essayent d'aller dans le sens de la durabilité en conciliant la légitimité de la légalité. Et donc, il y a tout d'abord sur le plan d'interprétation, comme c'est le grand problème de ce conflit, l'interprétation des textes. Le TIDA a recommandé qu'il y ait une étude de clarification juridique et spatiale de ces deux textes de loi qui portent des limitations du parc national de Virunga pour essayer de concilier ce qui est décrit dans les textes, mais aussi ce qu'il y a sur terrain, sur le plan spatial, sur le plan géographique. Il y a une autre recommandation, le renforcement de la résilience dans la zone en conflit. Comme vous le savez, ce conflit a détérioré des tissus sociaux et même sur le plan économique, il y a des conséquences fâcheuses. Et donc, s'il faut résoudre ces conflits, il faut aussi réfléchir dans le sens de la résilience. Et donc, il y a cet aspect aussi qui a été considéré dans les recommandations, le relèvement communautaire, le développement socio-économique. Il y a également la restauration de l'autorité de l'État, que ce soit sur le plan sécuritaire que sur le plan politique. Il y a également l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles dans la zone, en considérant que l'espace reste statique. Au fait, ça ne s'ajoute pas, ni ça ne se diminue pas. Sauf que la population augmente du jour au jour. Alors, en suivant le schéma de la réforme foncière en RDC actuellement, il y a une recommandation allant dans le sens de la mise en place d'un service foncier communautaire pour essayer d'organiser la gouvernance des ressources naturelles dans la zone.
Et ces recommandations sont adressées à qui?
Il y a le niveau national qui se retrouve aussi avec des responsabilités, le niveau provincial, le niveau local sur le plan administratif. Il y a aussi donc les acteurs au conflit, l'UCSN, la population locale.
Serge Voutea, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.